Si un marcheur qui est un ordinateur, alors on ne peut pas dire que la caractéristique différentielle de l'homme, c'est la pensée. La pensée peut renvoyer à l'impersonnel. La pensée de l'homme est inconsidérablement plus grande que la pensée chez l'animal, mais la pensée existe déjà chez l'animal, sous forme d'ordinateur rudimentaire, élémentaire, capacité d'établir des relations. Et si déjà la pensée est chez l'animal, alors on ne peut pas se servir de ce critère, même si chez l'homme elle prend une dimension incommensurable, pour définir la caractéristique différentielle de l'homme en tant qu'être vivant, parmi les autres êtres vivants. C'est donc le Hayam Daber que la tradition juive a choisi, plutôt que le Hayam Askil. Et si la capacité d'être Maskil, d'être Marchev de l'homme est si grande, c'est parce qu'il aimait Daber. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est là qu'apparaît, si vous voulez, l'énorme aventure contemporaine du structuralisme, qui essaye d'évacuer de la parole elle-même la présence de la personne, et renvoyer la parole elle-même à l'impersonnel. Et au fond, on pourrait dire que ce n'est peut-être qu'avec le structuralisme que l'antagonisme du judaïsme est apparu dans l'histoire des cultures, et que le matérialisme classique n'était rien à côté de ce qu'annonce comme assassinat de l'homme la philosophie du structuralisme. Je dis cela parce que je sais que beaucoup d'étudiants juifs sont fascinés par ce qu'ils découvrent dans les structures du langage avec les structuralistes, et ça leur tient lieu de Kabbalah, si j'ose dire. Et il y a là un danger très grave, de ne pas se rendre compte qu'en fin de compte, il y a une tentative d'évacuer ce pourquoi la tradition juive avait préféré la définition de l'homme en tant que Hayam Daber. Et que s'il y a capacité créatrice de l'homme, ce serait beaucoup plus dire à la tradition juive dans sa capacité de parole que dans sa capacité de pensée. Pour revenir à l'image de Dieu, c'est plus en tant que l'homme est capable de parole que capable de penser que l'homme serait donc à l'image du Dieu créateur. Et ici, il faudrait donner à l'expression de la parole créatrice un sens beaucoup plus que poétique, beaucoup plus que littéraire, et peut-être beaucoup plus que mystique même, puisqu'en fin de compte, il s'agit de la réalité. Alors que d'une certaine manière, la tentation mystique serait peut-être de se détourner de la réalité pour trouver compensation ailleurs, parce que la réalité serait décevante. Mais le récit de la création nous renvoie à la réalité. Dieu a voulu rendre réel un monde qui était vrai. C'est l'objet du créateur en tant que tel. Et donc j'ai cité par hypothèse, on la trouve aussi chez Maïmonide d'ailleurs, cette définition du théologien philosophe que c'est par la pensée que l'homme serait à l'image de Dieu. Le Raphaël de Volodji nous enseigne tout à fait autre chose. Il nous dit que toutes les créatures incarnent, réalisent une certaine manière d'être. Seul l'homme est cette créature qui les récapitule tout à la fois. Comme Elohim, il est l'homme, l'unité de toutes les forces. C'est dans l'homme seulement que tous les niveaux d'être sont récapitulés. Ce qui fait apparaître la personne, le sujet. C'est pourquoi les rabbins avaient préféré la définition de la spécificité de l'homme en tant que Hayam Daber, vivant parlant, à la définition de Hayam Askil, qu'ils connaissent aussi, vivant pensant. Si nous avions le temps d'ailleurs, je vous citerai à quel point Maïmonide lui-même va finalement rejoindre le schéma kabbaliste, quel que soit ce que les professeurs d'université maïmonidiens diraient, dans un passage tout petit des Shmoneh Prakim, où il rejoint la définition de l'homme par sa capacité de parole, beaucoup plus que par sa capacité de penser. Je vous donnerai, si cela vous intéresse, la référence de façon précise. Et parce que derrière la parole, il y a quelqu'un, alors que derrière la pensée, il peut y avoir l'impersonnel. Parce que derrière la parole, il y a une personne qui parle, alors que derrière la pensée, il peut y avoir l'impersonnel du « il pense » dans le sens de « sa pense ». C'est là que nous rejoignons le structuralisme, qui, à mon sens, est une tentative d'achever d'évacuer le message biblique en éliminant la personne du discours lui-même, en éliminant la personne de la parole elle-même, et en montrant le mécanisme des structures de la parole, et dans cette mise en évidence des structures, assassinant celui qui parle dans la parole. Eh bien, voilà donc la réponse de Raphaël de Volodji. En quoi l'homme est à l'image de Dieu? Et nous voyons bien que ce mot d'image est une image. Okay. En tant que créature, il est lui aussi et seule créature à l'être, l'unité de toutes les manières d'être. Et je reprends le schéma classique qui est derrière l'enseignement du Rav Chaim de Volozhin, que nous trouvons surtout exprimé dans le Kuzari du Maharal. Il y a quatre niveaux d'être récapitulés dans un cinquième. Le domaine, l'inerte, et retenez pour les hébraïsants que c'est déjà formulé en termes de parole. Comment l'hébreu dit l'inerte en disant le silencieux, domaine. Et ensuite le tzomeach, le végétal, et vous savez aussi que les mêmes termes en hébreu disent la végétation et le murmure des lèvres, siyah. Ensuite le hay, le vivant, et tout vivant aurait dû être vivant parlant. Le problème, c'est pourquoi l'ânesse de Bilaam a parlé. Le problème, c'est pas pourquoi l'ânesse de Bilaam a parlé, c'est pourquoi les autres ânesses ne parlent pas. Et pas seulement les autres ânesses, tous les autres animaux. Mais voilà qu'il y a le quatrième niveau, le Hayam Daber, l'homme, le vivant parlant. Le cinquième niveau étant le prophète, le vivant parlant en parole de vérité. Et qui récapitule, et le Rav Chaim de Volozhin nous indiquera dans l'économie de ce schéma, c'est que seul l'homme est l'unité de tous ces niveaux d'être. L'expression de niveau d'être, je l'emprunte à Madame Amadovalensi, et l'homme est l'unité de tous ces niveaux d'être. Il est comme celui qui est le vrai Dieu, l'unité de toutes les forces divines, Ha Elohim. De la même manière, l'homme est Betselem Elohim, en ce sens-là, qu'il est en tant que créature, à l'image de Dieu comme Dieu, mais en tant que créature, l'unité de tous les niveaux d'être. Il y a dans la personne humaine la récapitulation de toutes les manières d'être. On retrouve une idée banale, mais à travers le Rav Chaim de Volozhin, elle a pris une dimension théologique énergique, un microcosme, les mots ayant leur sens simple, un résumé de l'univers entier et qui fait apparaître le sujet, la personne humaine. Et là, nous avançons un peu dans notre problème. Vous vous rappelez de la structure du récit de chaque œuvre, de l'œuvre de chaque jour. Énoncé du projet, Yehior, récit de l'effectuation dans la réalité, et c'est dans la réalité que la part de liberté, d'autonomie, de décision, et donc éventuellement d'invention créatrice, de création de l'homme, apparaîtrait. Troisième point de cette structure du récit, le jugement. Et Dieu vit que cela était bon, qui revient comme un refrain dans l'œuvre des six jours. Attention à l'exception du deuxième jour, mais c'est repris deux fois le troisième jour. C'est repris deux fois le sixième jour. Okay. Le troisième déjà ? Il y a deux fois qui tôt.
Mardi.
D'accord. Et oui, et le sixième jour, c'est la récapitulation. Tôt, mais haute. D'accord. Oui, vous avez raison. Et puis, quatrième point, le bilan. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1, jour 2e, jour 3e, jour 4e, jour 5e. Jour 6e, et il n'y a pas encore écrit, vous vous souvenez de ses études à propos du Shabbat, il n'y a pas encore écrit, et ce fut soir, ce fut matin, jour 7e. Et donc, la part de l'homme serait dans la réalisation du projet du 7e jour. Or, un jour il sera écrit, et ce fut soir, ce fut matin, jour 7e, et nous passerons au 8e jour. Le septième jour étant accompli. Je vous indique en passant, c'est un peu relié à Hanouka. Vous savez très bien que nous attendons. J'ai fait un lapsus messianique. J'ai dit nous attendions. Nous attendons Eliyahu Hanavi qui doit annoncer le Messie à la fin du septième jour. On chante les chants d'Eliyahu Hanavi pour la Havdala, à la fin du septième jour. Parce qu'on attend qu'il vienne à la fin d'un septième jour pour nous annoncer le huitième. Le huitième jour est le sens et le jour messianique. Dans son sens profond, la Nigré très rapidement à propos de Hanouka, c'est une fête messianique par le fait qu'elle dure 8 jours. Okay. Regardez la magie, j'ai intentionnellement dit naïvement ce mot de magie, la magie du mot 8 en hébreu, shmini. Shmini, c'est l'adjectif de shemen, l'huile. Quelle huile ? L'huile de l'onction. Okay. Le shmini, c'est le jour de l'onction. Le jour où on emploie l'huile, shmini. Okay. Shemen, shmini. Okay. Vous savez que la Hanouka devrait être normalement être des lumières, pas des bougies, de lampes à huile. Okay. Hashmonaï. Hashmonaï, ça commence par un het, 8, et après Shemen. Hashmonaï. Okay. C'est-à-dire, c'est le jour de la réinauguration du temple. C'est le jour de la préfiguration messianique. Alors on allume une menorah pas de 7 jours, mais de 8. Ce sera pas de 7 lampes de 5 lumières, mais de 8. Et il n'est pas écrit, ce fut soir, ce fut matin, jour 7e. Et c'est donc dans ce 7e jour que sera formulé le projet pour l'homme. C'est le projet pour l'histoire de l'homme. L'homme est créé le 6e et commence son histoire au 7e. Alors, tant que l'avènement messianique n'est pas encore venu, la Bible ne peut pas écrire « Et ce fut soir, ce fut matin, jour 7e ». Le verset qui formule le projet pour l'histoire de l'homme, se trouve au chapitre 19 du Lévitique, c'est le verset 2. Et on pourrait résumer toute la Torah en tant que charte du projet du septième jour par ce verset, verset 2. D'aber el kol adat bene Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, vers Martha Alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu, vous serez, soyez, les deux traductions à la fois dans le même mot qui est au futur, vous serez saints, S-I-N-T-S, vous serez saints, ki kadoshani, Hashem Elochechem, Elochechem, car je suis, moi, votre Dieu, saint. La lecture juive ici est très claire. Vous serez Kedoshim en tant qu'homme, parce que je suis moi, votre Dieu, Kadosh en tant que Dieu. Il n'y a pas, encore une fois, d'analogie de substance, mais il y a, dans l'ordre de l'enseignement du Rapprim de Volodin, de même que Dieu est le vrai Dieu, soyez-vous des vrais hommes. Vous serez saints en tant qu'homme, comme moi je suis saint en tant que Dieu. Et alors un jour il sera écrit, et ce fut accompli, Vayehu Kedoshim, et ils furent saints. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 7e, et on passera au 8e, d'une certaine manière. Alors ce serait là la place de la part de l'homme en tant que créateur. Inventer la sainteté de l'homme. Cela, lui seul peut le faire. C'est dans le projet de sainteté que est sa vocation de créateur. Je terminerai cette analyse par une référence un tout autre texte. Vous vous souvenez, commandement, de ce qu'on traduit en français « sacrifice d'Isaac », mais rappelez-vous que le sacrifice n'a pas eu lieu. Et on dit en hébreu « Akedat Yitzhak », c'est un sujet pour lui-même, qu'à un certain moment, Dieu dit à Abraham « Ata yadarti, ki yere Elohim ata ». Maintenant je sais quoi, que yere Elohim ata, que tu es craignant, puisque tu n'as pas refusé ton fils que je t'ai demandé, puisque toi tu étais prêt à me le rendre et lui était prêt à se rendre, si j'ose dire, il s'est acquis, tu l'as acquis, garde-le. C'est ça l'essentiel de ce texte. On obtient que ce qu'on est prêt de sacrifier. Mais ce n'est pas le sacrifice que Dieu demande. Dieu n'a pas créé un homme pour lui demander de disparaître. Il a créé un homme pour que cet homme puisse mériter d'être par lui-même. Et dès que cet homme est prêt à renoncer à lui-même, il s'acquiert. Bon, c'est la difficulté de l'épreuve. Mais l'intention de la lecture juive de ce texte est tout à fait différente de ce que l'on pourrait penser. Ce n'est pas un sacrifice manqué. C'est un sacrifice réussi, en ce sens qu'il n'a pas eu lieu. Et en tout cas, à ce moment, Dieu dit à Abraham, « Ata yadarti, maintenant je sais, qui ere Elohim ata », c'est la traduction habituelle, « parce que tu es craignant Dieu, et tu ne m'as pas refusé ton fils premier-né de moi. » Je vous cite ici un enseignement que l'on a prêté au Ramak, à Rabbi Moshe Cordovero, qui était d'ailleurs un contemporain un peu plus avant du Hari. Le Hari d'ailleurs a suivi l'enseignement du Ramak et ensuite est devenu le grand maître de l'école de Saint-Pèze à son tour. Le Ramak, c'est Rabbi Moshe Cordovero. Alors on lui prête l'enseignement suivant. Il faut lire le verset, nous dit-il autrement. Ata yada, maintenant je sais. Qui yere Elokimata, parce que toi tu es craignant. Maintenant je sais quoi, qu'est-ce que ça veut dire être craignant Dieu. Jusque-là je ne savais pas. Toi tu l'as inventé. Toi tu. Grâce à toi je sais ce que c'est. Vous comprenez l'idée qu'il y en a. Okay. La part de l'homme dans l'histoire du monde. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Il nous a inventé tout notre monde. sauf une chose qu'il attend que nous inventions. Qu'est-ce que c'est être saint dans le projet de sainteté pour l'homme? Car lui est saint dans le projet de sainteté pour Dieu. Et tout se passe comme si toute cette aventure de l'histoire du monde, de faire passer l'infini à travers la création, c'est pour faire apparaître la sainteté de l'homme. Mais c'est l'homme qui est créateur de la sainteté de l'homme. Je reprends le verset dans la lecture du Ramak. Atay adarti. Maintenant je sais ce que c'est être Yéré Elohim, parce que toi tu es Yéré Elohim. En réalité, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Je veux dire, tous les attributs de la divinité qui nous sont donnés en modèle d'imitation nous viennent de lui. Un de ces attributs ne peut pas nous venir de lui. La crainte de Dieu ne peut pas nous venir de Dieu. Et par conséquent, Dieu ne sait pas ce que c'est que la crainte de Dieu tant que Abraham ne l'a pas inventé. Et c'est ce que dirait ce verset. Atayadarti, qui est le Kimata. D'une certaine manière, ce que l'homme invente dans l'histoire, c'est comment être vrai dans la réalité. Ce que Dieu a inventé, c'est comment être vrai dans la vérité. Et puis il a créé une réalité, et c'est à l'être de la réalité à inventer comment être vrai dans la réalité. Donc cette part de créativité de l'homme est commensurable, incommensurable, mais elle est au niveau des valeurs morales. Elle est au niveau du projet de sainteté. Elle n'est pas au niveau de l'invention du monde. Le monde est déjà inventé. Et notre ingéniosité consiste, et c'est notre vocation d'homme, à faire coïncider la réalité et la vérité. Il n'y a rien à inventer à ce niveau-là, sauf une chose, être celui qui fait cela. Et cela, le génie seul de l'homme peut le faire. Le trait d'union entre réalité et vérité. Et c'est l'enseignement que l'on prête au Ramak. Cependant, il y a une suite à cet enseignement, et c'est là que j'arrêterai cette introduction. Qu'en réalité, Dieu lui-même, à sa manière, possède cette même vertu. Je vais être un peu paradoxal. De la même manière qu'il y a Yirat Elohim venant de l'homme, la crainte de Dieu venant de l'homme, ça veut dire le respect des valeurs divines. La valeur peut tout contre moi, sauf une chose, que je la respecte ou pas. Eh bien, cela c'est ma part. Akol bideh shamayim chut mirat shamayim. Cela c'est la part de l'homme. Eh bien, de la même manière, les kabbalistes nous disent, dans la suite, dans la foulée de cet enseignement, que Dieu possède une vertu corollaire, le respect de la créature, qui s'appelle la mida de El Shaddai. Que le Midrash interprète, She'amar le'elakuto dai, She'amar le'olamo dai. Il a dit à son monde, jusque-là et pas plus. Il a dit à sa divinité, jusque-là et pas plus. De telle sorte que le monde soit préservé. C'est-à-dire que l'existence du monde soit préservée. Si Dieu, laissait se déployer l'expansion de son absolu, il n'y aurait plus de place pour le monde. Le monde serait éteint. Le monde serait englobé. Nibla. Le monde serait annulé. Cette force qui consiste à laisser place au monde, à laisser place en fin de compte à l'homme, s'appelle en hébreu El Shaddai. C'est-à-dire que même cela, Dieu le connaît, sans sortir de la connaissance de lui-même. Mais cependant, il y a quelque chose quand même de nouveau, qui est créé par l'homme, cette vertu du côté de l'homme. Et je reprends donc le verset, Atayadarti, maintenant je sais, qui est Relokimata, parce que toi, Abraham, tu as été capable de cette valeur de sainteté. Et c'est là que la création du monde trouve son sens, son accomplissement, dans la création de la vertu par l'homme. La vertu étant au fond, dans sa définition juive, exprimer la vérité en termes de réalité. Vous retrouvez là l'atmosphère du judaïsme élémentaire, fondamental, mitzvot ma'asiyot. Le génie de l'homme, c'est de pouvoir effectuer les vertus au niveau des actes, et pas seulement dans l'intention de vivre. C'est ce que nous appelons en termes hébraïques le projet de sainteté. Là, l'homme est créateur. C'est lui qui invente la vertu. Pour tout le reste, nous serions en controverse, et nous allons l'être toute la semaine, avec toute théorie prométhéenne je pense que c'est cela qu'on nous promet, de l'usurpation illusoire de la capacité de créer par la créature. Voilà donc l'analyse de préparation à notre problème que je voulais vous communiquer ce soir.
Je vais vous poser une question.
Oui, parle fort pour tout le monde.
D'accord. Qu'est-ce qui est Tov Meod?
Ah, écoutez, c'est un problème, non pas de détail, mais qui nous ouvrirait une tangente par rapport au sujet. Ça ne veut pas dire que nous n'en parlerons pas. Si tu veux, tu poses la question dans les cours du matin. Okay? Mais je voudrais, pour nous débarrons dans ce sujet pour la semaine, que vos questions portent sur le sujet que tu viens. Et en fin de compte, en une phrase ou deux, tout à l'heure, j'essaie de récapituler l'essentiel de ce que j'essaie de dire dans cette introduction. Vous avez donc la parole. Parlez plus fort.
L'homme est pareil à Dieu par la parole. Alors, qu'est-il quand il se tait, quand il se trouve dans la situation de merveille ? Qui est-il à ce moment-là ?
L'homme ?
Oui. Est-ce que... Alors, il ne ressemble pas, il le rejoint. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, je vais vous dire, dans la parole, dans ce que nous appelons la parole, il y a deux temps. Il y a le temps du dire et le temps du non-dire. Je veux dire, il y a le temps de parole et le temps de silence. Le silence fait partie de la parole. Et ceux d'entre vous qui savent chanter savent cela. C'est que les temps de silence, du rythme, du chant font le chant, beaucoup plus que les sons. Peut-être en tout cas au moins autant. Il y a, c'est quelque chose que j'ai entendu de Martin Buber, il y a des silences vides et il y a des silences pleins. Et on dit plus dans le silence qui donne un sens à la parole que dans la parole elle-même. Bon, seul un artiste du chant pouvait le dire mieux que moi. C'est un peu à cela que je voudrais faire. L'Echa Dumiya Tehila, dit le verset des psaumes. Pour toi, le silence est louange. La vraie louange est un silence. Vaïdom Aaron. L'essentiel de ce que Aaron avait à dire, c'était de se taire. Oui. Parlez plus fort. Non, attention, je n'ai pas employé le terme de Olam HaEmet, parce que Olam HaEmet, en hébreu traditionnel, ça a pris un autre sens, ça veut dire le monde après la mort. Olam HaEmet, okay. Faites attention à cela. Mais non, j'ai employé le mot de vérité dans son sens philosophique grec. Okay. Laquelle ? Du samedi matin ? Du Yotzer, ok. Rappelez la formule pour tout le monde. Piège. Rappelez la formule pour tout le monde. Attendez, mais quelle est la question? Alors je vous réponds tout de suite à cela, après vous poserez la deuxième question. Écoutez, selon l'enseignement de la tradition juive, le déroulement des grandes étapes de l'histoire du monde, c'est à peu près ceci. C'est d'abord l'histoire de Olam HaZeh, qui est l'effort d'engendrement à travers l'histoire humaine du Fils de l'homme, c'est-à-dire de l'identité de l'homme réussi. De l'identité messianique selon la tradition juive. C'est Olam HaZeh. Au terme de l'histoire, de cet effort d'engendrement qu'on appelle les toladot, c'est pourquoi c'est ce terme de toladot qui signifie histoire en hébreu, beaucoup plus que divrei amim ou historia. Historia, c'est de l'hébreu qui vient du grec. Okay. Et divrei amim veut dire ce que dit historia, ce qui se passe dans le temps. Mais toladot, c'est la modification du sujet de l'histoire, l'homme, jusqu'à ce qu'il arrive à l'identité ultime du fils de l'homme, c'est-à-dire de l'homme engendré par l'homme, et au-delà des contradictions du Adam, le Ben-Adam, dans le langage des prophètes, Ben-Adam. Et ça, c'est Olam HaZeh. Au terme de Olam HaZeh, il y a une époque qui s'appelle les Yemot HaMashiach, les temps du Mashiach. Cette époque a deux limites. Elle débute par Mashiach Ben Yosef, le rassemblement des exilés, et elle s'achève par Mashiach Ben David, la transfiguration de l'homme, la résurrection des morts. Vous allez me demander, le rassemblement des exilés, pendant 2000 ans, on sait pas ce que c'était, maintenant on voit. On sait ce que c'est. Maintenant, la résurrection des morts, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas. Parce que quand on y sera, on le verra. Et, un peu comme nous disons en hébreu, habituellement on dit Nihyeh v'Nireh, nous vivrons et nous verrons. Peut-être qu'il faudrait dire Nireh v'Nihyeh. Nous verrons et nous vivrons. Et après commence Olam HaBa. Et Olam HaBa, la Gemara elle-même dit, Aïnorata, personne ne l'a vu, même pas les prophètes. Mais nous en avons pressentiment. C'est ce monde-ci comme il aurait dû être, pour satisfaire l'enfant qui est le prophète en nous. Enfin, qui est celui qui est capable de lire les prophètes en nous. Et je cite là un enseignement de notre maître, M. Bordin. Au fond, le génie des prophètes, c'est de confirmer que le rêve de l'enfant est vrai. Et que il y a un monde qui est notre monde, mais tel qu'il aurait dû être pour être le monde à l'honneur de Dieu. À l'honneur de Dieu en tant que fraternité. C'est le Olam Haba. La foi hébraïque, c'est cela. Que ce monde de Olam Haba existe plus que ce monde de Olam Hazeh qui est nécessaire mais transitoire, nécessaire mais provisoire. Et ce qui était notre sujet, et où dans l'histoire de ce monde-ci est la place de la capacité créatrice de l'homme, la vertu. Tout le reste est éphémère. Tout le reste passe comme des ombres, y compris toutes les civilisations. Mais c'est la vertu qui s'invente dans notre vie. Bien, quelle est la deuxième question? Attendez, il n'a pas fini. Plus fort, je
vous dis. Quand vous dites que la méchanité, c'est le mot
qui a dit être. La méchanité.
C'est là qu'on a la base.
Écoutez, si j'ose dire, c'est vous qui l'avez dit. L'étape de la messianité est préalable de Olam Haba. Alors, quelle est votre question? Je n'entends pas encore la question. Monsieur? Oui.
Ça ne peut pas relier son chat à cet ultime aboutissement. L'histoire suivante qui est la traversée de la mer Rouge.
Pourquoi et... cela en particulier? Pourquoi cela en particulier?
Je me suis posé cette question parce que la mitzvah des Matzotazim a été donnée.
La mitzvah des
Matzotazim a été donnée avant le temps de la Torah.
Mais avant le passage de la mer Rouge.
Et avant le passage de la mer Rouge, donc avant le temps de la Torah. Et est-ce que dans le contenu historique, dans le contenu calque de l'histoire spirituelle, si vous voulez, l'avènement de ce projet par l'homme, c'est pas là que se situe essentiellement la notion de création, la marche de créativité entre guillemets qui pourrait être celle de l'homme.
J'avoue que je ne comprends pas la logique interne de votre question. En quoi le passage de la mer Rouge se relie à la notion de création?
En ce sens que la notion mécanique est peut-être la conséquence d'une réinvention d'une nouvelle charité.
Écoutez, ce que vous dites là a certainement un sens, mais symbolique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous êtes passé en cours de discours à un vocabulaire symbolique.
Non, pas symbolique. Je ne suis pas du tout dans le symbolique, parce que moi j'avais fait un rapport avec l'utilisation des mots, des analogies qui étaient extrêmement significatives.
C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, mais je crains que vous avez un vocabulaire qui associe des symboles en parlant de la réalité, qu'une découverte de l'utilisation possible de l'hydrogène dans le monde contemporain serait analogue à ce qui s'est passé au passage de la mer Rouge. C'est un peu formel, vous comprenez, comme relation.
Ah non, c'est pas si formel que ça, dans la mesure où l'utilisation de l'hydrogène aurait des conséquences qui seraient relativement analogiques avec celle de la...
Oui, une faillite de l'économie égyptienne.
D'une part,
ou de l'OPEP en général.
D'une part, l'impossibilité de continuer à fabriquer des armes parce qu'il est évident que.
Très bien, là vous quittez le symbole. Très bien,
si vous voulez, parce qu'il est évident que ça amènerait à ce moment-là un nouveau marché des alliages en performance de ce qu'on appelle les métaux spéciaux, comme le myopium, et que par conséquent, ça réduirait considérablement ce qu'on appelle aujourd'hui le complexe militaire industriel, de moyens de marché, tout en lui procurant un débouché de substitution à cette technologie. Et je pense que l'hydrogène débouche à terme sur une économie gratuite.
Oui. Écoutez, si vous me permettez. Non, je vous suis, oui. Si vous permettez que je revienne, moi, au niveau du symbole. Il s'agirait d'ouvrir les eaux.
Oui, c'est ça.
Oui. Or, non, mais tout ce que je vais vous dire là est complètement fantasmagorique, symbolique. Le mot de Maïm, en hébreu, reproduit assez fidèlement, symboliquement, la formule de l'eau, H2O. Vous voyez, il y a deux mêmes et un une. H2O. Alors, si on ouvre Maïm, peut-être. C'est l'ouverture des eaux. Non, mais l'idée est importante. L'idée est importante parce que l'essentiel de l'expérience du passage de la mer Rouge, c'est que les lois de la nature peuvent être subjuguées et que notre planète peut connaître un temps paradisiaque par une réussite des sciences et des techniques à une condition, c'est que la moralité soit fondée.
La finalité morale.
Oui. Parce que je pense qu'effectivement, il y a dans la capacité de l'ingéniosité humaine, dans le sens des sciences et des techniques, et nous sommes dans la réalité non plus dans ce projet prométhéen de dérober le feu créateur ou la parole créatrice qui n'appartient pas à l'homme, qui appartient au créateur. Il y a suffisamment de capacité pour que la planète soit transformée en paradis terrestre. Qu'est-ce qui empêche Mamerakev, comme nous disons en hébreu, ou Mimerakev, c'est qu'il n'y a pas la morale. Si la morale était fondée, il y a suffisamment de capacité, je répète la même formule, de transformer en une génération notre monde en un paradis terrestre par les sciences et les techniques. Et on corrigerait des anomalies de l'histoire de la nature, qu'en hiver il fait chaud et en été il fait froid. Que non seulement c'est l'été mais il fait chaud, mais et non seulement c'est l'hiver mais il fait froid. Enfin, nous aurions chauffage central dans les rues en hiver et réfrigérateur céleste en été. Mais je veux dire que la capacité des sciences et des techniques pourrait réaliser ce rêve de l'enfant dont ont parlé les prophètes. Le temps messianique, c'est-à-dire un monde où le problème économique serait supprimé. Bien, monsieur avec le donc,
vous avez dit à
et après.
Il est dit que la première étape du temps messianique sera le Messie Régnant, c'est-à-dire le rassemblement du Messie. Alors, nous voulons savoir si le Messie Régnant est un concept ou est-ce que dans votre perspective, est-ce une personnalité.
Bien, bien. Bon, ok, c'est un sujet pour lui-même, mais enfin, puisque nous en avons parlé, je vais tenter de vous répondre succinctement en me référant à la phrase de la liturgie que monsieur a citée tout à l'heure. Okay. Et dans cette phrase de la liturgie qui énumère les différentes étapes, Olamazé, Kimela Olamaba, mes transitions, Yamotamashia, et Triatametim, il y a la phrase suivante. Efes Zulatra Goalenu Limotamashia. Que je traduis très littéralement. Rien, Ephes, Biltecha, Ephes Biltecha, sont hors de toi, rien que toi, nous nous adressons à Dieu, au Créateur, notre libérateur, Goalenu, Limot HaMashiach, autant du Mashiach. Et le Mashiach, Ephes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ok. Alors ça veut dire qu'autant du Mashiach, il n'y aura pas de Mashiach? Non. Autant du Mashiach, c'est Dafka précisément qu'on reconnaîtra la souveraineté de Dieu, pas du Mashiach. Le Mashiach, c'est l'homme réussi. Autant de l'homme réussi que toi. Et le Mashiach, Ephes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se garder d'une tentation d'idolâtrie. Mais ça ne veut pas dire que le Mashiach ne fonctionne pas. Il fonctionne. À Jérusalem, nous mangeons des tomates juives et des bananes saintes. Il fonctionne. Vous allez à Mahane Yehuda. Et vous avez sur les étals, comme on dit, la preuve que le Mashiach fonctionne. Pendant 2000 ans, on n'a pas mangé de bananote que de chose. Pendant 2000 ans, nous n'avions pas de ragvaniote que de chose.
C'est idiot.
Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut bien comprendre cela. Vous savez, au moment de la guerre des six jours. au moment. C'était pas concerté. Au moment de la guerre des six jours, lorsque nous sommes arrivés au Kotel, sur la muraille, eh bien, il n'est pas arrivé cela, que quelqu'un soit venu habillé de blanc sur un âne rouge en disant « c'est moi ». Ça, c'est un signe de bonne santé du peuple juif 2000 ans après. Vous comprenez ce que je dis? Parce que s'il nous est arrivé ce malheur, que quelqu'un serait venu monter sur un âne rouge en disant « c'est moi », il y aurait eu des émeutes dans le monde entier. Vous comprenez le problème? Peut-être que ces 2000 ans d'exil nous ont vaccinés de cette tentation de l'idolâtrie du Messie. Il fonctionne. Alors c'est bien quelqu'un qui fait ça. Et il est aidé par tout un peuple. Mais pourquoi il se cache? Pour pas qu'on l'adore. pour ne pas qu'on tombe dans cette superstition de l'adoration des images. Parce que peut-être nous ne sommes pas complètement vaccinés, et que peut-être nous aurons l'autre la tentation d'adorer une image. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Regardez la bonne santé de la nation israélienne. Il n'y a pas de culte à Moshe Dayan. Il n'y a pas de culte à Moshe Dayan. Et pourtant, c'est lui qui est arrivé au pied de la montagne, en 67. Voilà ce que nous dit la phrase du Yotzer. Efes biltecha goalenu, liman de Mashiach. Je pense que j'ai répondu à votre question. Bien sûr que ce sont des hommes qui agissent dans cette histoire, et qu'il y en a un à la tête. Eh bien, il fonctionne, c'est l'essentiel. Qui sait, ça ne nous regarde pas, tant qu'on n'est pas vacciné contre l'idolâtrie totalement. Et je crois que là, le peuple juif a donné de notre temps une leçon de monothéisme hébreu considérable. Comme ça va de soi, puisqu'on est contemporain, ça va pas de soi. C'est énorme ce qui s'est passé. Nous vivons des événements messianiques, mais il n'y a pas de culte messianique. C'est très important.